Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Tout le monde ne ressemble pas à son prénom. Raphaël, si. Lui qui nous revient auréolé en 2017 du prix Goncourt de la Nouvelle, qui nous revient donc avec un album sous haute tension sentimentale et sonore, un album érotique et puissant à écouter en poussant le volume de façon libératoire, un album dont le titre a plusieurs grilles de lecture, Haute Fidélité, et qui convie les voix de Clara Luciani, de Pomme, de Valeria Bruni-Tedeschi. Voilà, un album dont on va beaucoup parler et de tant d'autres choses encore pendant cette balade qui démarre.
Europe 1.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Raphaël, vous qui, comme je l'ai précisé à l'instant, en 2017, avez reçu le prix Goncourt de la Nouvelle, vous affirmez que, pour parler d'amour, une grande chanson vaut mieux que la littérature. En tout cas, vaut bien À la recherche du temps perdu ou Anna Karénine. Aucun chef-d'œuvre, vous l'avez dit, aucun chef-d'œuvre littéraire ne livre plus la substance de l'amour qu'une grande chanson.
Ouais, je fais un peu de provocation quand je parle
j'imagine.
De Anna Karénine ou de
l'œuvre de Proust.
Ouais, mais je crois que c'est un endroit où ça s'exprime particulièrement bien quand vous avez, je sais pas, un crash amoureux et que vous entendez une chanson d'amour, ça peut être un grand secours, peut-être plus, ça peut plus vous, je sais pas, vous émouvoir et vous qu'un livre à ce moment-là. Je sais pas, peut-être si l'intelligence, elle se place pas au même endroit.
Oui,
et puis c'est très rapide. Ça met 3 minutes d'écouter une chanson d'amour, alors que lire Anna Karenine, il faut
voilà,
un certain
ou la recherche du temps perdu, effectivement. Mais alors, je continue quand même, je creuse, je continue
si
avec votre
mal,
provocation.
On peut régler le problème plus vite avec une chanson.
Oui, c'est certain.
Qu'avec.
Mais quelle grande chanson valent bien Anna Karenine ou la recherche du temps perdu pour parler d'amour alors, s'il fallait.
Je sais pas, les chansons de. Moi, j'adore les chanteuses country.
C'est vrai?
Je dirais que les chansons de Dolly Parton, par exemple, ou les chansons d'Emilio Harris, ce genre de chanteuse.
Alors, c'est donc une quête, une espèce de graal, écrire la sublime chanson d'amour. Mais je pense à la phrase de Barbara qui disait « Je fais le plus beau métier du monde, il ne faudrait pas en plus que ça soit facile. »
Oui, je
donc,
sais,
effectivement,
il adorait citer cette phrase.
Effectivement, c'est difficile, en réalité, d'écrire et de savoir que là, vraiment, on a trouvé.
Ouais, je sais pas si on le sait. Après, c'est la manière dont ça résonne dans le monde et dont ça parle aux gens. Parce qu'on peut écrire la plus belle chanson, si elle est pas partagée, on le saura pas trop, quoi. Et puis, je crois moi, j'essaye simplement de m'exprimer, quoi, de raconter ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, très simplement. Et après, c'est le mystère qui fait que parfois des choses touchent le cœur des gens, des fois ça passe à côté, ça tient tellement rien. Bon, voilà, mais ce qui compte, c'est déjà de pouvoir faire son travail patiemment.
Alors parlons travail, justement, pour ce nouvel album Haute Fidélité. Des ordinateurs, 3 synthés, un piano, des guitares, des amplis. Vous avez installé tout ça dans votre chambre, qui est devenu un laboratoire de sons et de rêves. Vous avouez qu'il est très agréable de créer et d'enregistrer sans devoir aller dans un studio. Les disques se feront de moins en moins souvent en studio, à votre avis, Raphaël?
C'est des méthodes différentes. Moi, j'adore l'environnement du studio, mais c'est comme un univers stérile. C'est comme si vous étiez dans un cockpit d'avion ou d'un bloc opératoire. Et donc, c'est agréable d'être dans la vie, quoi, de pouvoir, je sais pas, cuisiner, d'avoir la vie qui s'invite dans la musique. Et puis, ça évite de passer par des étapes intermédiaires. On fait des maquettes, puis ensuite on va en studio. Puis quand on est en studio, on veut retrouver la chose de la maquette qu'on aimait, mais avec un meilleur son. Alors là, on va directement du geste au produit fini, comme si on faisait de la peinture un peu. Et ça, c'est super.
Le rock, le vrai, vous manque. Et ce nouvel album, il est infusé par l'esprit du rock, même s'il est très mélodique avec des harmonies planantes. En fait, plus que le rock, c'est sa liberté dont vous êtes nostalgique.
Le rock même, le son, l'électricité. Alors aujourd'hui, c'est une musique un peu du passé, bien sûr, mais j'aime cette. J'ai des souvenirs comme ça de ses vibrations électriques, de son érotisme, justement, de son message très libérateur, quand même, très positif souvent.
Mais votre son à vous, il n'est pas brut, il est très travaillé.
Mais le rock, c'est souvent très travaillé. Hein. Après, c'est vrai que les disques d'Elvis Presley, ils étaient enregistrés en 2 jours, mais les Pink Floyd, parfois, ils enregistraient leur truc en 3 ans. C'est du rock aussi. Je sais pas. Moi, j'aime le son, bien sûr. Alors, le son, on peut l'obtenir en 10 minutes, comme ça peut être plus long. Mais c'est pas si travaillé que ça, ce disque. En fait, c'est même assez peu travaillé. Ça paraît peut-être travaillé parce qu'il y a beaucoup de textures, mais le temps qu'on passe à la fabrication d'un album comme ça, ça va très vite en fait. C'est très instinctif.
Pour vous, c'était un rocker, Christophe ?
Ah ouais, à fond. À fond les manettes, ouais.
Faut du temps hein, pour s'affranchir de la variété. Il en a fallu à Christophe pour aller de Aline, à, par exemple, au Paradis perdu. Vous avez le sentiment de faire ce même chemin ? Je parle de Caravane,
qui a été le
triomphe absolu de l'année 2005, avec presque 2 millions d'exemplaires vendus.
Peut-être que j'ai un peu... Je ne me suis pas dit, mais je pense qu'on avait le... On n'aime pas être prisonnier de quelque chose, quoi. Personne n'aime être prisonnier d'un succès, d'une image, ou de... Et je pense que Christophe avait ça aussi. Évidemment, je ne peux pas parler pour lui, mais j'imagine. Et puis, ce disque Caravane, il existe, on peut le trouver. Les gens qui l'ont aimé, ils peuvent encore l'écouter. Et c'est très bien. Et moi, je l'adore. Mais refaire la même chose, ça n'aurait pas beaucoup de sens pour moi. Donc, effectivement, ça met du temps avant de s'affranchir de l'image que les gens ont de vous, peut-être.
Ouais.
Mais en tout cas, ce qui compte, c'est le chemin. C'est pas tellement là où on arrive. On s'en fout, là où on arrive. Non.
Vous étiez en train de finaliser cet album, ce nouvel album, Haute Fidélité, quand vous avez appris la mort de Christophe. Et plusieurs de vos titres empruntent presque à son univers, en tout cas, s'inspirent de sa poésie planante. C'est voulu ou c'est inconscient, Raphaël ?
Non, c'est voulu. C'est-à-dire que j'y avais pas, de parenté avec un disque de Christophe du tout, jusqu'à sa disparition. Et j'ai fait deux chansons, j'ai fait une intro qui vraiment est comme un hommage à Christophe. Et une chanson où je lui réponds. Voilà, il m'avait fait un mail et je réponds à un de ses mails donc, qui lui est dédié, qui parle de lui, qui le décrit, qui raconte sa disparition, en fait. Et puis je l'ai cité après dans le disque. Je me suis dit, bon, voilà, comme il planait au-dessus, finalement, je me suis dit peut-être que ça a un lien, parce qu'aussi il m'avait présenté Arthur, avec qui j'ai écrit une partie des chansons du disque.
De Feu Chatterton.
Oui, tout à fait. Donc, mais je pense que... Vous auriez écouté 10 chansons sans ces deux-là, personne n'aurait pensé à Christophe. Oui, je suis certain. Je suis certain de ça.
Alors, Raphaël, Haute Fidélité, tout le monde dit que c'est votre album le plus intime. Je ne sais pas d'ailleurs si vous partagez ce sentiment. Oui. C'est le plus intime. Oui. Mais traversé par d'autres voix que justement la vôtre, les voix de trois femmes puissantes, inspirantes, Clara Luciani, Valeria Bonitedecchi et Pomme. Pourquoi elles? Elles trois.
C'est vrai que c'est trois femmes puissantes, c'est marrant. Vous avez raison. Et très inspirantes. Pour des raisons diverses, quoi. Valeria, c'est une amie. Elle est importante pour moi, quoi. Je l'adore. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps avec elle ces dernières années. Et j'avais envie d'avoir sa voix, comme ça, d'entendre les voix des gens qu'on aime. Et puis, en plus, elle a la plus belle voix du cinéma français. Valeria, il n'y a rien de plus beau que sa voix.
Ouais.
Et. Clara, elle était dans mon groupe en 2015-2016.
Elle vous accompagnait en
tournée. Elle était guitariste pour moi. Et elle faisait des claviers, c'était ma guitariste, donc de rock. Et on est amis, quoi. On est montés sur scène 80 fois ensemble, donc ça crée des liens.
Ça crée des...
Ouais, on a eu peur 80 fois ensemble, c'est pas mal, quoi.
Et
Pomme, c'est plus fortuit, comme ça, par les réseaux sociaux. Elle a pris contact avec moi, et puis je lui ai répondu. Et je lui ai proposé de chanter une chanson, c'est très... Voilà, le fruit du hasard.
Bon, on fait une pause très courte, on retrouve tout de suite Raphaël.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
On le dit romantique et tourmenté, mais il est tant d'autres choses également. Raphaël qui nous revient avec un nouvel album intitulé Haute Fidélité et avec lequel on chemine cet après-midi, Raphaël. Un père avocat, éditeur de revues scientifiques, un oncle sorti major de Polytechnique et major de Normale Sup la même année, un autre oncle... Prix Nobel de physique.
C'est le même oncle.
C'est le même. Bon, extraordinaire.
Il y en a qui était bon à l'école, quoi.
Bon, ben, il y en a un. Non, bon, le mot est tiède. On va dire qu'il y en a un qui était prodigieux, donc, prix Nobel de physique en 2012, n'est-ce pas ? Physique quantique. Bon, comment imagine-t-on sa vie quand on a 15 ans et qu'on est immergé dans une telle famille ?
Déjà, il n'était pas prix Nobel de physique quand j'avais 15 ans.
Certes, mais...
alors, c'est très différent, peut-être. Et ensuite...
Mais il était déjà sorti majeur de Polytechnique et majeur de Normale Sup la même année, non ?
Ouais, peut-être, je me trompe. Il était majeur de Polytechnique, ça je suis sûr. Normale Sup, peut-être qu'il n'était pas majeur, mais il était très fort, ça c'est indiscutable. Et puis, c'est une famille, dans la famille de mon père, où ils sont tous très bons à l'école.
Ouais.
C'est vrai, c'était des intellectuels. J'admirais beaucoup ça, moi, j'admirais le fait que... Je sais pas, n'importe quel problème de mathématiques. Moi, j'étais nul en mathématiques. Par exemple, j'étais vraiment pas assez intelligent pour les maths, quoi. Et vraiment, en seconde, j'arrivais avec un truc de... que je montrais à mon père. Il regardait ça en deux secondes. Je me suis réglé. Je me disais, c'est cool, quoi. C'est étonnant, quoi. C'est martien. Voilà, mais c'était une famille comme
pour
ça.
Pour vous, les études brillantes n'étaient pas négociables.
J'ai pas fait d'études brillantes. C'était tellement négociable que j'ai totalement trahi cette espérance.
Attendez, pendant l'adolescence, ouais. En tout cas, vous êtes soumis à cette injonction.
J'étais au lycée, je travaillais beaucoup et j'avais des bonnes notes. Voyez, et j'avais la chance d'être dans un environnement où tous les enfants travaillent tous bien, où c'est très compétitif, où du coup, on n'a pas tellement le choix, ouais. Pas vis-à-vis des parents, même vis-à-vis des camarades. Quoi. Tous les camarades ouais. sont bons, tous les camarades...
C'était une question d'honneur.
Et puis ne pas être sur le bord du chemin, quoi, de ne pas être largué. Quoi. Et puis, la question, c'est, dans ma famille, c'est de mon père, c'est des intellectuels. Oui, ça, je peux
oui,
le dire.
Parce
oui.
que, par exemple, une anecdote qui vraiment éclaire la oui. chose. Votre grand-mère paternelle, qui a oui. immigré de Russie oui. au début du XXe siècle, oui. avait quand même instauré cette course à l'excellence, puisque, paraît-il, elle lisait à votre père La Tempête de Shakespeare en allemand et en russe, alors qu'il
oui,
avait...
Oui, non, je crois qu'elle la lisait en français. J'ai fait quelques...
Ah bon
mais c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, La Tempête de Shakespeare, à un enfant de 7 ans.
Mais oui. Un enfant, elle, oui, bah, elle trouvait ça beau, mais après, elle a raison, c'est beau. C'est très beau. Je sais pas, moi, mes enfants, ils lisent des Femmes de La Fontaine, mais ils les lisent en français, oui, c'est vrai. Mais des tout petits, c'est magnifique. Bon, je connais pas leur éducation. Moi, je vois que, par exemple, mes enfants, j'essaie de leur faire une éducation de poésie, de musique, quoi. C'est presque ce qui m'intéresse le plus, c'est de leur dire, lisez des livres et apprenez la musique, le reste. En fait, ça me...
Vous dites que ce qui vous a le plus aidé dans la vie, en fait, vous l'avez puisé dans les livres.
Oui. Oui, je dirais que c'est une immense intelligence auquel on a accès quoi, quand on lit des livres.
C'est l'intelligence
du
monde.
Vous pouvez être copain avec Jack London et il va vous expliquer comment il voyait le monde et ça, ça n'a pas de prix.
Alors, je reprends la chronologie de l'histoire. Oui. En 2012, par exemple, parce que... Pas anodin d'avoir un oncle prix Nobel oui. de physique pour ses travaux sur
oui,
l'électrodynamique quantique. Bon, cette année-là, Raphaël, en 2012, vous sortiez l'album Superwelter,
oui.
salué par la critique comme meilleur album de l'année. Mais ça signifie qu'il y a tant de mondes différents dans un même monde. C'est quand même étonnant.
Oui, vous êtes trop gentil avec moi, mais c'est pas du tout. En tout cas, c'est vrai qu'avoir un prix Nobel,
je fais
c'est
des
quelque
fausses
chose d'extraordinaire.
Mais
voilà.
C'est pour dire à ça, quel point il y a tant de monde dans un même monde.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je dois avouer que je ne comprends absolument rien aux travaux de mon oncle. J'ai déjà essayé de regarder des cours
ben
au Collège
voilà,
de France.
Et bien voilà, c'était ma question suivante. Je voulais savoir si vous aviez
pas
tenté...
Un mot, je ne comprends pas un mot. J'ai tenté, mais je veux dire...
Tenté de vous aventurer.
J'ai tenté, mais je regarde ces émissions. Par exemple, je ne vais même pas demander, mais je regarde... Il est prof au Collège de France.
Serge Haroche.
Voilà, et par exemple, où il était prof au Collège de France. Moi, par exemple, je suis beaucoup les cours du Collège de France, notamment les cours de littérature de Antoine Compagnon. Vous pouvez les suivre, c'est 15 ans de cours. Il a donné sa leçon finale là, en janvier, mais c'est merveilleux, quoi. J'ai rien entendu de plus beau. Donc j'ai appris 100 fois plus que ce que je n'ai jamais appris à l'école en écoutant ce Antoine Compagnon, par exemple. Ouais. Et j'ai essayé d'écouter les cours de physique, mais le truc, c'est qu'au bout de 5 minutes, il met une formule mathématique au truc. Et il y a, je sais pas, 3... Je ne sais même pas la lire, je ne comprends rien, c'est très humiliant. Donc non, j'ai pas accès.
C'est très humiliant,
dit Raphaël. C'est très débile, j'ai aucun accès. J'ai aucun accès.
Bon, alors, on a dit que...
Je suis un débile, enfin je veux dire, je ne comprends rien.
J'adore la manière dont vous dites ça. Raphaël, vous avez donc fait toute votre scolarité de la 6e jusqu'au bac à Henri IV,
oui.
meilleur lycée de France, où on travaillait furieusement. Quelle place reste-t-il pour le rêve, la fantaisie, l'imaginaire, quand la charge de travail est aussi colossale et qu'il y a une sélection permanente? On a le temps d'être un rêveur.
Oui, quand même, on a le temps de rêver. Bien sûr qu'on a le temps de rêver. C'était une époque... moi, je me suis fait des très bons amis pour la vie, comme ça. Et puis, bien sûr, je rêvais tout le temps au travail, mais c'était pas non plus... Tous les élèves travaillent, de quelque soit. Enfin, il y a beaucoup de lycées...
Plus ou moins, hein.
Il y a beaucoup de lycées
et
où les élèves
les
travaillent.
Tous les lycées voilà, ne sont pas Henri IV.
Non. Et puis, en plus, moi, je vous parle d'un temps où... Ça a dû changer aujourd'hui. Peut-être c'est encore beaucoup plus difficile aujourd'hui, je ne sais pas.
En tout cas, vous nous dites à l'instant là, vous nous dites que vous
rêvait,
êtes fait
voilà.
à Henri IV, je vos meilleurs amis pour la vie.
Je fais, que font-ils? J'ai d'autres amis, j'ai beaucoup d'autres amis.
Mais que font-ils cela?
Je me suis fait quelques bons copains. Alors que après, quand j'ai fait d'autres études, j'étais comme un somnambule. Je suis passé complètement à côté. J'étais un somnambule après mon bac. Mais avant ça, C'est vrai qu'au lycée, il y a eu un... J'ai deux, trois amis comme ça, avec des relations que je vois encore de temps en temps.
Qui sont devenus des artistes aussi.
Il y en a un qui est devenu écrivain, qui s'appelle Camille de Toledo, un autre qui est devenu éditeur, qui s'appelle Aurélien Masson, c'est des très bons copains. On se voit, parfois on ne se voit pas pendant 6 mois ou 1 an, mais je veux dire, on est toujours en lien, on est toujours dans les pensées, c'est des copains quoi.
Mais alors, la musique, Raphaël, parce que j'imagine que dans ce milieu, quand on est élève à Henri IV, faire de la musique, ça signifie forcément être premier prix de conservatoire ou rien. Donc, comment passe-t-on de cette écurie de course qu'est Henri IV, qui prépare aux grandes écoles, à un destin de chanteur pop-rock?
On fait son truc, à un moment donné.
Ça veut dire qu'on saute du train en marche, tout à coup, on prend la fuite, tout à coup, on se rebelle.
Je dirais pas que c'est une rébellion, vraiment, c'est un mot, à mon avis, un peu exagéré pour ça. Il y a des rébellions beaucoup plus courageuses que ça.
Peut-être, mais en tout cas,
mais je dirais que
vos
c'est
parents
simplement...
ambitionnaient sans doute certaines choses pour vous.
Je pense que mes parents voulaient que je sois heureux avant tout. Et que je sois un peu passionné par ce que je faisais. Donc, ils connaissaient pas de gens qui faisaient de la musique ou qui étaient chanteurs. Donc, pour eux, c'était un peu mystérieux, tout simplement. Mais bon, ils écoutaient Georges Brassens, ils trouvaient ça sublime, comme tout le monde trouve ça sublime. Donc, c'est pas comme si c'était un métier méprisable. Ils avaient pas ça du tout. Je crois que c'était moi, quoi. Petit, je voulais être chanteur. C'est simplement ce pourquoi j'étais fait. Je voulais être chanteur
ou
écrivain.
Vous ne l'aviez dit à personne?
Si, je l'avais dit, bien sûr. Oh, ouais, je chantais toute la journée, j'avais de la musique en moi. J'avais envie d'être chanteur. Et puis, c'est peut-être à l'adolescence, comme ça, où les voix se recouvrent un peu, comme ça. Il y a un truc du conformisme, des autres élèves ou des professeurs. On vous laisse entendre que les choses ne sont pas si possibles que ça, qu'on ne va pas y arriver. Mais ma voix intérieure, comme si je pouvais parler d'une âme, je la sentais beaucoup plus proche de la musique que de quoi que ce soit d'autre.
On retrouve tout de suite Raphaël. On attendait depuis 3 ans le nouvel album de Raphaël. Le voilà, Haute Fidélité. Et Raphaël est mon invité cet après-midi. Raphaël, je continue de dérouler le fil de votre histoire. Oui. Alors, tout en choisissant de faire du droit, on va dire un peu par défaut, c'est ce que je devine. Oui. Par défaut, mais sérieusement quand même. DEUG, licence, maîtrise, ou alors vous étiez doué. Bon, maîtrise quand même. Vous vous êtes laissé emporter par cet appel de la musique que vous venez d'évoquer, puisque vous rêviez de chanter vraiment depuis la petite enfance. Ça résonnait donc en vous depuis longtemps. Mais bon, qui étaient vos maîtres à l'époque? Qui vous fascinait? Vous étiez en fac de droit et en même temps, vous aviez une vie parallèle?
J'étais étudiant en droit, mais je n'allais pas en fac de droit. C'est-à-dire que j'avais une très bonne mémoire à l'époque. J'étais comme un hypermnésique.
Oui, donc j'apprenais... mémoire de bachotage.
Voilà, c'est ça. Donc j'apprenais une semaine avant les choses par cœur, que j'oubliais aussi vite. Et j'ai fait ça pendant 4 ans, 5 ans.
Et ça a fonctionné pendant 5 ans?
Ça a fonctionné pendant 5 ans avec des notes modestes, je crois. Mais par contre, je passais d'année en année sans ne rien savoir, ne rien me souvenir. Et puis j'étais en droit comme ça, comme un somnambule, quoi. Je me sentais pas du tout intéressé par ça. J'étais très éloigné de...
Et donc le reste du temps, puisque vous n'alliez pas en fac,
oui,
et bien vous faisiez de la musique.
J'avais énormément de temps libre, je ne pouvais pas en avoir plus. Et donc je faisais de la musique et j'essayais d'écrire des chansons, de trouver comme un territoire, d'inventer.
Alors justement, trouver son propre territoire, sa singularité musicale, savoir vraiment qui on est, parce qu'on peut avoir envie, mais encore faut-il se dessiner musicalement. Comment tout ça s'est fait?
C'est en tâtonnant, quoi. Je pense que c'est vraiment très expérimental. On cherche quelque chose. Parfois, on a un résultat qui vous plaît. Parfois, c'est un son. Parfois, bon, il m'a fallu du temps. Je crois que j'étais pas peut-être assez immature. Donc, j'ai mis du temps avant de trouver un son qui me plaise vraiment. Ça passe par plein de choses. Ce qu'on a envie de raconter. Puis le son, et puis les mélodies, et puis les rencontres avec d'autres musiciens.
Bowie vous a inspiré, par exemple?
Oui, beaucoup, bien sûr. Mais beaucoup de musiciens...
Comme?
Peut-être Bachung m'inspirait pour le français, Bachung ou Jacques Brel ou je sais pas, d'autres gens. Enfin, tout peut vous inspirer, tout ce que vous entendez à la radio tous les jours, une chanson comme ça qui passe au supermarché, ça peut vous inspirer, comme des grands maîtres comme Leonard Cohen ou Brassens.
Alors, le tout premier album, Hôtel de l'Univers, il a remporté un succès d'estime assez puissant pour faire les premières parties de Vanessa Paradis et justement de David Bowie dont je parlais à l'instant, première partie que vous avez faite en 2002 à l'Olympia. C'est pas anodin de faire la première partie de Bowie quand on démarre une carrière. L'aventure, vous l'avez vécue comment? Est-ce qu'il s'est révélé fraternel, Bowie, même si vous avez peu parlé avec lui? Dites-nous.
C'était un premier album qui a été bien reçu. Après, c'était comme ça. Il est resté assez confidentiel au moment où il est sorti. Et ensuite, c'est les chances de rencontres professionnelles qui font qu'on peut faire des premières parties, effectivement, de Vanessa Paradis ou de Bowie ou des Pixies aussi. J'ai fait de Frank Black, qui était un de mes héros à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs. Et oui, c'était des aventures incroyables à chaque fois, et particulièrement Bowie, puisque c'était comme une des raisons pour lesquelles j'avais fait de la musique. Donc c'était très étonnant, émouvant, et puis il est tout ce qu'on peut attendre d'un gentleman. Voilà, c'était il était conscient de l'effet qu'il faisait aux gens, et il était extrêmement gentil, élégant et fraternel, justement, pour les 15 minutes qu'il passait avec vous.
Ouais. Raphaël, quand on fait la première partie d'une star, est-ce qu'on écoute et on regarde ensuite la star depuis la coulisse ou le fond de la salle? Vous faisiez quoi? Vous étiez installé?
Je me suis mis dans la barrière, c'est ce qu'on appelle le crash barrière, c'est une barrière qui est entre le public et la scène. Les mecs qui font la sécu sont là. Et j'ai regardé le concert à cet endroit-là, c'était très, très cool, quoi. J'ai trouvé ça super.
Et pour les Pixies?
Pour les Pixies, c'était beaucoup plus rude. Alors les Pixies,
j'imagine.
C'était beaucoup moins une star. Je me rappelle, on tournait dans des petits clubs, le Clermont-Ferrand, la Côte de Mai, le Bikini à Toulouse, ce genre des vrais clubs rock comme ça de 800 personnes à l'époque. Et puis le mec, il finissait son concert et il prenait ses gants comme des gants de déménageur et puis il portait ses caisses lui-même, il dormait dans son bus. Enfin, c'était pas David Bowie, quoi. C'était pas le même homme. Bon, c'était un rocker sur la route, quoi. J'admirais beaucoup les deux.
Vous êtes un rocker sur la route, Raphaël, en période hors Covid?
J'aime dormir dans les bus, j'aime pioncer une demi-heure sous une table avec un manteau pour me soutenir la tête. J'aime bien ce truc-là, bouffer deux bananes, boire deux bières, monter sur une scène, être pris comme ça, comme si on voyageait dans le temps, être pris dans une émotion extrêmement forte. Et puis cette vie un peu se laisse aller, quoi. J'adore cet état de flottement. J'adore ça. Un peu comme si on était tout le temps jet-lagué. Sauf le moment où on vous met sur scène, où là c'est comme si on vous étiez comme un poisson hors de l'eau, et là on vous fout dans l'océan. C'est vachement bien.
J'adore l'image. On retrouve tout de suite Raphaël. Europe 1. Le nouvel album érotique et puissant de Raphaël, Haute Fidélité, est à écouter en poussant fort le volume. Et
oui,
c'est le rire que vous entendez et celui de Raphaël, mon invité. Chic hein, de se balader cet après-midi en compagnie de Raphaël. Alors, cher Raphaël, à vous qu'on dit insensible à votre image de beau gosse, je pose quand même cette question. Bon, a priori, être beau ne fait pas partie du concept quand on est un artiste, a priori. C'est encombrant, parfois, un physique qui dit des choses avant même qu'on ne parle.
Je crois que tous les physiques disent des choses avant qu'on parle. Et
oui, mais quand on est beau...
Et je ne crois pas être spécialement beau.
Ça en dit certaines. Allez.
Je ne crois pas, mais vous me flattez. Je prends les compliments, en tout cas, avec plaisir.
Vous savez très bien. Non, mais je songe à Rimbaud, par exemple, parce qu'il y a les poèmes de Rimbaud, et puis il y a la beauté saisissante de Rimbaud à 17 ans, qui donne une résonance particulière, justement, à ces poèmes. Est-ce que, par exemple, dans le triomphe de l'album Caravane en 2005, avec presque 2 millions de disques vendus, c'est phénoménal. Est-ce qu'il n'y a pas justement un peu de ce phénomène-là quand le talent, en plus, puisqu'il est bien évidemment là le talent, mais quand il est incarné par une gueule d'ange? Je sais que ma question vous gêne, mais vous la pose quand même.
Pas du tout. En ce qui me concerne, je ne sais pas, je ne peux pas porter de jugement sur mon physique ou je ne sais pas quoi, j'ai la gueule que j'ai, parfois je me dis qu'elle est pas mal, parfois je me dis que j'aimerais en avoir une autre, voilà, peu importe. Mais je vois les chanteurs que j'ai aimés, je les trouve tous beaux. Voilà. Mais peut-être pas parce qu'ils le sont, mais peut-être parce que j'aime leur musique. Et du coup, j'érotise. Après, David Bowie, il était très beau. Moi, je trouvais magnifique. Mais je sais pas, je trouve Tom Waits est magnifique aussi. Je trouve que Leonard Cohen est d'une beauté incroyable aussi. Je trouve que Bob Dylan est sublime. Bon, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire être beau, en fait.
Mais alors,
parlons, par exemple, du temps
qui passe. Raphaël, aujourd'hui, vous avez 45 ans. Le public et les médias vous voient pour toujours, hein, en jeune homme gracieux, avec une gueule d'ange, voilà, ce jeune homme que vous êtes là devant moi. Ça revient vraiment tout le temps dans les articles et dans les commentaires.
Oh, plus longtemps, hélas.
Alors effectivement, il y a toujours cette adolescence comme ça qui est accrochée à votre sourire. Mais le temps a fait de vous un père. Que vous reconnaissez dans ce qu'on dit de vous aujourd'hui, quand justement on parle de votre physique. La plupart des articles démarrent comme ça.
Non, ça fait très longtemps que ça ne démarre plus comme ça. Non, vous parlez de vieux articles.
Non.
Mais ceci dit, j'aimais bien, moi, quand on me flattait un peu. J'aime bien. Je suis vaniteux, comme tout le monde, j'aime bien. Mais je dirais que... Moi, je me considère comme un père de famille. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je me vois, comme un papa, quoi, comme un père. Si, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont comme des fils et des gens qui sont comme des pères, quoi, comme certains. Alors moi, en tout cas, intérieurement, je me sens un peu comme un papa. Après, peut-être j'ai une apparence extérieure qui fait... j'en sais rien, c'est peut-être lié à... Parce que je ne suis pas costaud, ou j'en sais rien. Ou je sais pas pourquoi je reste relativement juvénile pour certaines personnes, mais très bien. Essayons de rester juvénile, à un moment donné, ce ne sera plus le cas.
Revenons à la musique, Raphaël.
Ouais.
On l'a dit et répété, Caravane, ça a été vraiment
puis un aussi, album. C'est parce que on a aussi des vies faciles, quoi. Je ne travaille pas à l'usine, je ne suis pas dans des champs.
Des vies créatives.
Oui, on est relativement protégés. Je veux dire, je pique de la crème hydratante à ma femme. Enfin, je ne suis pas... Je ne suis pas buriné par le soleil ou sur un bateau toute la journée, donc voilà, peut-être je vieillis moins vite que d'autres gens.
Bon, voilà, j'entends, je prends. Alors, Caravane, effectivement, ça a été un album phénomène pour l'industrie du disque, hein, en 2005 et 2006. Tous les Français ont plongé dans votre mélancolie planante. Est-ce que vous êtes quand même à un moment senti un tout petit peu prisonnier de ça, même si vous êtes d'une curiosité qui fait que vous voulez toujours expérimenter des choses neuves? Et ça, je trouve ça formidable pour... C'est ça, être un vrai créatif. Mais quand même, ça a dû être à un moment donné une prison dorée.
Oui, peut-être pas une prison dorée, mais à un moment donné, on commence à se poser des mauvaises questions, je pense. On commence à regarder des chiffres de vente ou de passage radio comme si ça avait une importance. On commence à se demander si suffisamment de gens vous ont reconnu dans la rue. Et là, c'est qu'on est sur une très mauvaise voie et qu'il faut totalement réinitialiser le logiciel, voilà.
Vous en êtes rendu compte vous-même ou bien ce sont vos proches?
Oui, et puis ça a duré quelques semaines ou quelques mois. Je veux dire, ça ne m'est pas arrivé très jeune non plus. J'avais 30 ans, même si peut-être j'en faisais 14 à l'époque. Mais en tout cas, j'avais 30 ans. Et donc, j'étais quand même assez mûr pour me rendre compte que tout ça, c'est de la connerie. Quoi.
Sept albums studio sont sortis depuis Caravane, qui a donc marqué
tant
son
ça,
époque.
Non. Ah oui,
ah bah
ça.
Oui. Le septième étant le nouvel album Haute Fidélité, dont vous dites vraiment qu'il faut l'écouter en poussant le volume fort.
Très fort.
Voilà. Mais vous avez pris des chemins de traverse, Raphaël, vous le musicien, puisque en 2017, vous avez osé la littérature nue. Pas celle des chansons ambitieuses, celle qu'on trouve dans la collection Blanche de Gallimard. Vous avez publié « Retourner à la mer » et vous avez décroché le Goncourt de la nouvelle. Longtemps, vous vous êtes interdit d'écrire, ou en tout cas, si vous ne vous êtes pas interdit d'écrire, vous êtes questionné. Vais-je oser ?
Non, vraiment pas. Ça s'est fait...
Vous l'avez fait quand vous en avez eu envie ?
Oui, exactement. Je n'avais même pas pensé à écrire un livre, en fait, avant.
Alors pourquoi soudain, à ce moment-là ?
Je ne sais pas. C'était un été. J'étais avec... comme ça, je faisais du surf le matin, je me rappelle, j'étais dans une maison à l'Atlantique, et puis après ma séance de surf, j'avais été rossé, je savais pas faire du surf, mais je revenais, j'étais avec un copain, en famille, et puis je revenais, les journées me paraissaient très longues, et puis je me suis mis à écrire une petite histoire, puis une autre, puis une autre, et puis tout s'est fait comme très simplement, sans réfléchir, quoi, sans aucune pression, sans se dire je vais faire de la littérature, ou je vais faire un livre, ou je vais raconter une histoire comme si je racontais une histoire à un copain.
Certes, mais déjà... C'est publié dans la collection Blanche de Gallimard.
Oui, mais là, ça ne l'était pas encore. Et ensuite, j'ai envoyé ce texte à un éditeur, à deux éditeurs d'ailleurs. Et les deux m'ont dit que ça les intéressait. Après, peut-être aussi parce que j'étais comme ça déjà connu dans un autre métier. Mais,
en tout cas, ça n'a pas été publié sous le nom de Raphaël. Ça a été
publié
sous
votre
nom de famille, Raphaël Haroche. Donc ça, c'était pour faire... justement, le petit pas de côté pour se délester de, on va dire, la
du
notoriété.
Livre de chanteur. Je ne voulais pas faire un livre de chanteur. Voilà. J'avais vraiment envie de tout sauf ça.
Voilà.
Ni de sortir en même temps, ni de faire les mêmes choses en promotion, ni de profiter de ça. Et beaucoup de gens qui ont lu mon livre ne savaient pas du tout que je m'appelais Raphaël Haroche ou que j'étais chanteur. Et par exemple, les gens de qui ont donné le prix Goncourt l'ignoraient, je crois.
Ils l'ignoraient
Oui, je crois. C'est ce qu'ils m'ont dit, en tout cas. Donc, ce qui m'a... plus, quoi, voilà, ça veut dire qu'ils ont juste jugé le truc parce qu'ils ont aimé. Suffisamment, en tout cas, pour ça.
Mais Raphaël, bon, décrocher le Goncourt de la nouvelle pour un premier essai, ça relève presque du prodige. Comment ont réagi vos parents avec lesquels, paraît-il, vous ne parlez jamais musique, mais avec lesquels, certainement, vous parlez littérature ?
Ouais, ils étaient très heureux pour moi, ils étaient très fiers. On a fait un dîner, c'était une grande joie, quoi. C'était une grande fête. C'est vrai que... Non, mais j'ai été très heureux, vraiment. J'ai passé... quelques semaines comme ça, à planer un peu.
Sur un petit nuage. Elle se passe comment, la remise du prix Goncourt de la nouvelle ?
Il y a un restaurant qui s'appelle Drouin.
Oui.
On vous appelle quelques minutes avant, ou quelques dizaines de minutes avant, pour vous dire que c'est possible. Et ensuite, vous attendez avec votre attaché de presse dans un autre bar où vous sifflez des vodkas. Généralement, c'est le matin. Donc,
et alors, vous dites quoi, votre attaché de presse, pendant toute cette attente ? Elle a duré combien de temps, l'attente ?
Je ne sais pas, une demi-heure, une heure. On est... C'est très émouvant, on est très une grande fébrilité. Et puis ensuite, vous allez là-bas, et puis il y a des journalistes, et on vous parle, et vous êtes très heureux. Et ensuite, vous déjeunez. Et,
c'est
et vous picolez un peu.
Et vous picolez, vous
avec
avez
Bernard Pivot,
raison
c'était très
de
sympa,
le faire. Voilà.
C'était très charmant. Après, j'étais avec mon éditeur, on a été au Harris Bar, se saouler la gueule. C'était une journée d'ivrognerie, hein, je dois l'admettre.
Donc vous êtes allé fêter ça dans un bar, en fait, ou un autre auteur internationalement connu, Hemingway.
C'est un bar où j'aime beaucoup aller, qui s'appelle le Harris Bar à Paris, qui est le bar des Américains à Paris,
oui,
où ils font les élections américaines, même à chaque élection. Et je sais pas, effectivement, tous les écrivains sont passés par là, quoi. Je savais pas pour Hemingway, mais bon. J'ai été me saouler la gueule avec mon éditeur, Aurélien Masson, et mon attaché de presse, Christelle. Et c'était très sympa. Ouais.
Vous êtes
cuite.
Vous allez comprendre dans deux minutes la raison pour laquelle je vous pose juste cette question avant de faire une petite interruption très très courte. Christophe, il a lu votre recueil de nouvelles, Retourner à la mer, il l'a lu ou pas, Christophe ?
Je crois que oui. Je sais qu'il l'a lu, oui, il m'en avait fait des messages, il m'en avait parlé, il l'a lu, oui, vous avez raison.
Il l'a lu. On fait une pause et on reprend le fil de cette histoire magnifique qui est celle de la vie de Raphaël. À tout de suite. Raphaël, on évoquait à l'instant Christophe, dont la poésie plane sur deux morceaux de votre nouvel album baptisé « Haute fidélité ». Alors, on peut se reconnaître sans forcément se connaître. Mmh. C'est ce qui s'est passé avec Christophe dès la première rencontre. Parce que, en fait, vous partagiez des moments volés. Vous écriviez, paraît-il, des mails à 6h du matin quand la France se lève alors que d'autres ne dorment pas encore. Vous lui transfériez, paraît-il, les bruits de la mer, comme ça, comme le son du bonheur qu'on envoie. Enfin, mille petites choses tissées par mail ou SMS. Ça a été quelle sorte de complicité avec Christophe ?
Moi, la première fois que j'ai vu, déjà... Petit, j'ai écouté ses disques, Aline, ses tubes que j'aimais vraiment. J'adorais ça. Je crois que ça a été un des premiers disques que j'ai aimé. Et ensuite, j'avais été le voir en concert en 2000, je crois. Quand je faisais mon premier album, c'était son retour sur scène après 20 ans de disparition. Quoi.
Oui.
Et j'avais trouvé ça céleste, magnifique. Et nous,
céleste.
On s'était rencontrés à une émission de télé. On avait chanté ensemble Les Paradis Perdus, une émission de télé, une émission caritative. Et ensuite, on était devenus un peu copains, comme ça, on se voyait de loin en loin. Et on est vraiment devenus amis quand j'ai été invité aux Nuits de Fourvière, qui est un très beau festival à Lyon, dans les arènes au Théâtre Antique de Fourvière. Et on m'avait donné une carte blanche en 2013 et j'avais invité Christophe. Voilà. Et donc, on avait passé 3 ou 4 jours ensemble à répéter, à parler, à faire des cocktails, à se marrer.
Oui.
C'était d'une élégance totale. Tout était devenu chic avec lui. Voilà, tout devenait... comme ça, smart et précieux un peu, quoi. C'était jamais à l'avenant.
Avec Christophe, vous avez même, vous allez me dire si c'est vrai, navigué en Méditerranée, chacun sur son bateau, mais en faisant des petits périples communs, tous les deux amoureux de la mer.
Oui. Lui, il était à Port-Grimaud. Moi, j'avais un bateau à l'époque à Toulon. Parfois, on se croisait, on passait un peu de temps ensemble, une journée ou deux, ou on passait une nuit quelque part... Dans une
crique
Ou dans un port, et puis on jouait à la pétanque. Enfin voilà, c'était des petits rendez-vous, quoi. Très charmant.
Mais vous étiez sur des voiliers ou des bateaux moins sportifs ?
Des voiliers.
J'avais
un voilier, lui aussi.
Mais ça ne s'improvise pas, dites-moi, la voile.
En ce qui me concerne, ça s'improvisait un peu. Ça s'improvisait un peu, mais bon, ça marchait quand même.
Il y a un an, Raphaël, pour... le premier confinement, alors que les Parisiens fuyaient leur ville pour la campagne, Christophe, un soir, vous a appelé pour vous demander si vous restiez à Paris. Mmh. Et il paraît qu'il a eu une très jolie phrase pour dire que lui aussi restait.
Ouais, je me souviens. Oui, je crois qu'il dit nous, on tient la ville comme des vigiles.
Tu restes. Moi aussi, je reste. Alors, on tient la ville comme des vigiles.
Oui, je crois qu'il voulait savoir si, qui était là, qui partait, quoi. Voilà. Et puis, bon, c'est le dernier message que j'ai eu de lui.
C'est le dernier.
Oui, c'est le dernier message que j'ai eu de lui. C'est vrai que c'est très beau. Voilà. Et ensuite, quand il est mort en plus en Bretagne, loin de chez lui, comme ça, dans une ville avec laquelle il n'avait rien à voir du tout. Et donc, c'est vrai que la fin de l'enregistrement de ce disque se faisait comme sous sa délicatesse. Sous son... Après, quand il est mort pendant un mois, je me souviens, dans mon quartier, les gens chantaient les mots bleus au balcon. C'était quelque chose, ça. C'était ça vous fout des frissons, rien que d'y repenser, quoi. Comme ça, les gens disaient une phrase et puis quelqu'un d'autre répondait. C'était tellement fort. Et on a été longtemps comme ça dans ça. Et puis ce que vous disiez, c'est vrai, c'est que c'était le plus moderne d'entre tous.
Voilà, sans, forcer, sans jamais sans avoir cherché à l'être. Alors Raphaël, on sent que pour vous, bon, l'amitié c'est un vrai carburant.
Oui.
Ceux avec lesquels d'ailleurs vous avez façonné le nouvel album Haute Fidélité ne sont pas des partenaires de travail, ce sont des amis, qu'il s'agisse de Benjamin Lebeau, d'Arthur Teboul ou de Clara Luciani. Et fumer ensemble des cigares, alors ça c'est drôle parce que souvent je vous entends dire ça en interview, fumer ensemble des cigares, ça revient quand vous racontez les rencontres importantes de votre histoire, comme si ça, il s'agissait en fait d'un calumet de la paix dans un acte de communion. Avec Clara Luciani aussi, vous fumez des cigares?
Moi j'ai arrêté la cigarette depuis longtemps, alors j'aime bien fumer des cigares. Ouais. C'était un été où j'écrivais cet album et je fumais beaucoup.
Alors, mais je vous pose la question parce qu'une femme qui fume le cigare...
J'en proposais, et Clara a bien voulu fumer.
Elle a bien voulu. Une femme qui fume le cigare, c'est quand même d'un érotisme inattendu. Est-ce que votre compagne, l'actrice Mélanie Thierry, partage ce goût?
Non.
Est-ce qu'elle aussi, elle fume des cigares?
Non.
Parce que ça, on a l'impression qu'à la genèse d'un album, Raphaël, pour vous, il y a toujours une rencontre avec des amis. On boit des verres d'un très bon vin. On refait le monde jusqu'à l'aube. Et on fume des cigares.
On refait pas le monde, hein, je dirais pas ça, non. On fait de la musique. Moi je fume, après, les autres, c'est comme par courtoisie, quoi. Voilà, vous proposez, si quelqu'un a envie de fumer, il fume. Et puis, parfois, vous savez, c'est comme un peu... ça donne envie, ça sent bon, c'est agréable. Mais non, je dirais qu'au cœur d'un album, c'est trouver des complices. Des complices qui ont ce que vous n'avez pas. Benjamin Lebeau, par exemple, c'est super de travailler avec lui. Arthur aussi, pour des raisons différentes. Benjamin Lebeau, c'est parce qu'il est très punk et qu'il n'interdit de réfléchir. Il est brillant, mais je veux dire...
Il vous interdit des choses.
Oui, ou de trop polir les choses. Ouais. Voilà, on y va, quoi. Il faut que ce soit un diamant brut. Et Arthur de Feu Chatterton, il vient du rap un peu, donc il a cette manière de... Les textes, je les ai faits tout seul, tous, mais il a... co-composer quelques titres avec moi, donc c'était une manière de placer la voix plus moderne que je connaissais pas, j'ai trouvé ça fantastique, très rythmique. Et en plus c'est des gens avec qui j'aime passer du temps, quand je les retrouve je suis fou de joie, enfin. Et puis c'est des charismes, quoi. Et puis c'est un chanteur, Arthur, par exemple, vous chantez à côté de lui, c'est quelque chose.
On retrouve tout de suite Raphaël.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Raphaël, vous avouez, j'aurais adoré être acteur si j'avais été bon. Mais qui vous a dit que vous ne l'étiez pas?
Moi, j'avais le trac. J'aurais aimé peut-être un acteur, mais j'avais le trac quand on me filmait. Comme ça, je perdais tous mes moyens. Alors, c'est pas terrible, quoi. On s'en fout de filmer quelqu'un.
Vous aviez un trac que vous n'avez pas quand vous chantez sur scène?
Oui.
Vous l'expliquez comment?
J'ai un peu le trac quand je chante sur scène avant, et puis une fois que je commence, c'est très positif. C'est la joie de savoir qu'on est à sa place, en tout cas, me fait que le trac disparaît, quoi, et que le plaisir prend le dessus très vite.
Et pourtant, vous dites que vous enviez parfois les mille vies de votre épouse, l'actrice Mélanie Thierry.
Oui, j'envie, d'autant plus que j'en serais incapable. Ouais.
Vous l'accompagnez parfois sur les tournages?
Jamais.
Jamais?
Jamais. Ça m'est arrivé de devoir y aller parce qu'elle tournait à l'étranger, quand elle tourne en Asie ou quand elle tourne en Amérique, enfin des choses comme ça, plusieurs fois. Donc je faisais les voyages. Quand je vais sur un tournage, par exemple, je viens parce qu'on a des enfants, donc... surtout si le dernier tournage loin, elle était partie en Asie, au Vietnam, en Thaïlande. Donc je suis venu, on s'est donné rendez-vous à Bangkok, et ensuite moi je suis parti en voyage avec mon fils aîné en Birmanie, on est parti une semaine, et puis ensuite on est revenu, enfin, mais J'ai même pas été à 200 km du tournage, quoi. J'ai rien à faire là-dedans. Ça m'intéresse pas.
Alors, vous dites que parfois, effectivement, vous enviez les mille vies de votre épouse Mélanie Thierry, mais quand même, vos vies à vous, Raphaël, elles sont pas mal. Dans quelques mois, déjà va paraître un nouveau recueil de nouvelles, n'est-ce pas ?
Oui.
Vous en avez le titre déjà ?
Une éclipse.
Va paraître chez quel éditeur et à quelle date ?
Gallimard, série blanche, je crois, fin du mois de septembre.
D'accord. L'année prochaine, ce sera votre premier roman qui verra le jour.
Peut-être, je ne sais pas. Il n'est pas encore fini.
Il n'est pas encore fini, mais il existe déjà pas mal. Le manuscrit est bien avancé.
Il est en cours, mais je ne trouve pas que une nouvelle, ce soit comme moins important qu'un roman. Je pense que ce n'est pas comme un court-métrage par rapport à un long-métrage. Je crois que c'est un... Des grandes nouvelles, pour moi, c'est aussi important que des grands romans, quoi.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit soudain une histoire pour la développer sur la longueur, sur le temps long, et une autre, on en fera une nouvelle sur 30 pages ?
C'est une très bonne question que je me pose beaucoup. Peut-être que moi, j'aime bien les histoires qui font 30, 40, 50 pages, et comme ça, c'est comme ce nombre de pages un peu en moi que je développe naturellement. Après, pour aller sur un format plus long, je pense que il faut installer une dramaturgie, il faut... C'est autre chose, mais ça m'intéresse aussi beaucoup, mais je ne suis pas pressé, je ne trouve pas que on manque de romans en France, quoi. Si vous regardez la rentrée littéraire, il y en a beaucoup.
Donc, c'est bien de faire vous êtes en train de nous dire qu'il faudra peut-être attendre la sortie du premier roman de Raphaël pour 2023, c'est ça ? Peut-être.
Je ne sais pas, ouais, peut-être.
Vous ne savez pas. Bon, heureusement que
avant... En tout cas, je travaille dessus, mais,
oui.
Mais peut-être que... Peut-être que je sortirai des nouvelles avant, peut-être. J'adore les nouvelles.
Voilà, il y a déjà chez Gallimard la sortie du deuxième recueil de nouvelles, donc à l'automne. Et puis, vous allez nous donner rendez-vous sur scène, Raphaël, au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris. Et alors là, ce seront 10 concerts au cœur du mois de mars 2022.
Dans un an, quoi. Dans un an, 10 soirs aux Bouffes du Nord, c'est un sacré rendez-vous parce que. J'ai jamais joué 10 jours de suite à Paris. Ça m'est arrivé de faire parfois 3 Olympias ou quelque chose comme ça, ou 4. Mais un rendez-vous aussi long, déjà, ça m'éclate. Ensuite, les Bouffes du Nord, c'est la salle où j'ai toujours rêvé de jouer depuis tout petit.
Et puis, il faut préciser une chose quand même, qui est chargée, je trouve, de beaucoup d'affect. C'est qu'il paraît que c'est là que vous avez vu, avec votre professeur de français quand vous étiez élève à Henri IV, que vous avez vu pour la première fois Peter Brook.
Et
vous
la tempête, en
êtes la tempête justement, et vous en êtes sorti complètement chaviré, voilà.
Oui, c'est vrai. J'avais trouvé ça très beau, très beau. Et puis j'y suis retourné de nombreuses fois depuis pour voir des pièces de théâtre, pour voir quelquefois des concerts. Et c'était toujours un endroit qui a déjà un spectacle en lui-même. Je sais pas, qui a une âme, c'est très particulier, je trouve, ce théâtre, quoi. Quelque chose de presque beau comme l'antique. On peut dire cette phrase là. Je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Léoto, beau comme l'antique. Il y a un truc comme ça, c'est un voyage dans le temps.
On entend une résonance grandiose.
Et puis
avec le lien justement de l'affect et l'adolescence, quand vous avez découvert pour la première fois ce lieu, c'est comme si le temps n'était qu'une compression en fait. C'est très curieux.
En tout cas, il y a ce rendez-vous entre la tempête de... en allemand, en russe et en tchèque de ma grand-mère.
Que votre grand-mère lisait à votre papa quand il avait 7 ans.
Peut-être qu'il y a une compression, je ne sais pas. En tout cas, il y a une grosse envie d'aller jouer là-bas et puis de faire quelque chose d'un peu étonnant, nouveau. Quand je fais des 10, j'essaie de faire des choses un peu surprenantes et j'espère que le spectacle, ce ne sera pas comme un tour
de
chant.
Donc vous êtes déjà en train de le construire, ce spectacle. Vous l'imaginez,
On fait des plans, des dessins, on réfléchit.
Pour la mise en scène.
Parfois très mauvaise, parfois bonne. Voilà, on essaye d'échanger des idées, exactement.
Eh bien nous, en attendant, donc mars 2022, en attendant, on a l'album. Haute fidélité, à écouter fort, n'est-ce pas ?
Ouais, je le conseille.
En poussant le volume à fond. C'était formidable, cette balade avec vous, Raphaël.
Merci beaucoup, merci pour toutes vos questions, pour tout ce travail. Je vois vos cahiers, ça me touche beaucoup. Vous avez pris tout ce temps pour... Ça me touche beaucoup, c'était super.
C'était luxueux de se promener avec vous. Je vous dis à très vite.
Merci, c'est moi.
Au revoir.
Au revoir.
Dans un instant, on retrouve Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.